Ma première réaction après son départ fut une invincible répugnance, car l'histoire, d'une manière ou d'une autre, était déplaisante. Je ne pouvais pas ne pas éprouver de dégoût à l'idée d'être réduit, tout en gardant mes facultés mentales intactes, à une petite masse grisâtre, flottant dans un peu d'eau. C'était monstrueux, obscène, impie. Ce qui m'ennuyait tout autant, c'était le sentiment d'impuissance que je connaîtrais une fois dans mon bassin. Car alors, plus moyen de revenir en arrière, de protester ou d'expliquer quoi que ce soit, je serais condamné à subir cet état de choses aussi longtemps qu'il serait capable de me garder vivant. Et qu'arriverait-il si la chose devenait insupportable, atrocement douloureuse, si je devenais hystérique, pas de jambes pour me sauver? Pas de voix pour hurler. Je devrais me contenter de supporter tout cela en grimaçant pendant les 2 siècles à venir. Et alors, même pas de bouche pour grimacer. À ce moment, il me vint une curieuse pensée. Une jambe coupée ne peut-elle pas faire mal encore? Un amputé ne dit-il pas à son infirmière que les doigts de pied, qu'il n'a plus le démange à le rendre fou ou autre chose du même genre? Si mes souvenirs sont exacts, j'en ai entendu parler assez récemment encore. Voilà, mon idée, c'est que mon cerveau, tout seul dans son bassin, pourrait encore avoir mal à ce corps qu'il aurait perdu. Dans ce cas, tous mes maux physiques, toutes mes souffrances actuelles pourraient revenir et me submerger. Et je ne pourrais même pas prendre un cachet d'aspirine pour me soulager. Ainsi, je pourrais imaginer d'avoir une crampe douloureuse dans la jambe ou une violente indigestion. Une autre fois, j'imaginerais que ma pauvre vessie, vous me connaissez, est si pleine qu'elle va éclater si je ne peux aller la vider immédiatement. Non, pas cela, mon Dieu. Je suis resté ainsi longtemps en compagnie de mes horribles pensées. Puis soudain, vers midi, mon humeur changea. Les aspects déplaisants de cette affaire m'atteignaient déjà moins et je me sentis capable d'examiner les propositions de lundi avec plus de lucidité. N'était-il pas, après tout, me demandais-je, plutôt réconfortant de penser que mon cerveau survivrait à mon corps qui, lui, va mourir dans quelques semaines? Oui, c'était en effet réconfortant, car je suis plutôt fier de mon cerveau. C'est un organe sensible, équilibré, magistral. Il contient un éventail prodigieux de dates et de faits. En plus, il est capable d'imagination et de raisonnement. Un beau cerveau, je l'admets, bien que j'en sois le propriétaire. Quant à mon corps, ce pauvre vieux corps dont lundi cherche à se débarrasser. Voyons, ma chère Mary, vous conviendrez avec moi qu'il ne vaudra vraiment pas la peine d'être conservé plus longtemps. J'étais allongé sur le dos en train de manger du raisin qui, du reste, était délicieux. Je retirai de ma bouche 3 petits pépins et les déposai sur le bord du plat. « J'accepterai, » dis-je calmement. « Oui, c'est bien cela. Demain, quand lundi reviendra me voir, je lui donnerai ma réponse affirmative. » Ce fut donc aussi rapide que cela, et à partir de ce moment, je me sentis beaucoup mieux. J'étonnais tout le monde en absorbant un copieux repas, et un peu plus tard, ce fut votre visite, comme tous les jours. Vous m'avez trouvé en bonne forme, et brillant, et guilleré. Qu'était-il arrivé? Y avait-il de bonnes nouvelles? Oui, ai-je répondu. Il y en a. Et alors? Si vous vous en souvenez, je vous ai demandé de vous asseoir confortablement et j'ai commencé aussitôt à vous expliquer avec beaucoup de ménagement de quoi il s'agissait. Hélas, vous ne vouliez rien savoir. J'avais à peine commencé à vous donner des détails que vous vous êtes mis en colère en répétant que la chose était révoltante, dégoûtante, horrible, impensable. Et lorsque j'ai tenté de continuer, vous avez quitté la chambre. Ma chère Mary, comme vous le savez, j'allais essayer, par la suite, de discuter avec vous de nombreuses fois de ce sujet, mais vous persistiez à ne pas m'écouter, d'où cette lettre. Et tout ce que je puis espérer, c'est que vous aurez le bon sens de la lire jusqu'au bout. J'ai mis beaucoup de temps à l'écrire. Deux semaines ont passé depuis que j'ai griffonné la première phrase et à présent je me sens bien plus faible qu'à cette époque. Je crains de n'avoir plus la force d'en dire davantage. Je ne vous dirai pas adieu, car il y a une chance, rien qu'une faible chance, que je puisse vous revoir plus tard si Lundy réussit son expérience et si vous avez alors le courage de venir me rendre visite. Je donnerai l'ordre que ces pages ne vous soient remises qu'une semaine au moins après mon départ. Donc, au moment où vous les lisez, 7 jours déjà ont passé depuis que Lundy a effectué son travail. Vous en connaissez peut-être déjà le résultat, sinon, si vous avez refusé volontairement d'y être mêlé, ce qui me paraît assez probable, je vous en prie, changez maintenant d'attitude et téléphonez à Lundy pour lui demander ce qu'il est advenu de moi. C'est le moins que vous puissiez faire. Je lui ai dit qu'il pouvait s'attendre à avoir de vos nouvelles dès le 7e jour. Votre fidèle mari, William. P.S. Après mon départ, ayez la bonté de ne pas oublier qu'il est plus difficile d'être une veuve qu'une épouse. Ne buvez pas de cocktail, ne dépensez pas trop d'argent, ne fumez pas, ne mangez pas de pâtisserie, ne mettez pas de rouge à lèvres, n'achetez pas la télévision. Quand viendra l'été, ayez soin de sarcler mes parterres de rosiers et mon jardin de rocailles. Et incidemment, je vous suggère de faire couper le téléphone maintenant que je n'aurai plus à m'en servir. W. Madame Pearl posa doucement la dernière feuille sur le sofa à côté d'elle. Sa bouche était pincée et ses narines avaient blanchi. « Non mais vraiment, une veuve n'a-t-elle pas droit à un peu de paix après toutes ces années ? Tout cela était trop affreux, inhumain et affreux. Cela lui donnait des frissons. » Dans son sac, elle prit une autre cigarette. Elle l'alluma, inspira profondément et remplit la pièce de nuages de fumée. Entre ces nuages, elle pouvait voir son poste de télévision flambant neuf, lustré, majestueux, hissé triomphalement, mais aussi avec un petit air de défi sur ce qui avait été la table de travail de William. « S'il voyait ça, se dit-elle. » Elle se rappela alors la dernière fois qu'il l'avait surprise en train de fumer. C'était environ 1 an plus tôt. Elle était assise dans sa cuisine, près de la fenêtre ouverte, fumant avec rapidité avant qu'il ne rentre du travail. La radio jouait bruyamment une musique de danse. Elle s'était retournée pour se verser une autre tasse de café et il avait surgi sur le seuil, immense et redoutable, la fixant de ses yeux troués de noire fureur. Pendant les 4 semaines suivantes, il avait payé lui-même toutes les factures et ne lui avait pas donné d'argent du tout. Mais naturellement, il ignorait qu'elle avait 6 livres dissimulés dans une boîte de potage en poudre, dans un placard, sous l'évier. « Pourquoi cela ?» lui avait-elle demandé un jour pendant le repas. « Craignez-vous que je n'attrape un cancer du poumon ?»« Non, » avait-il répondu. « Alors pourquoi n'ai-je pas le droit de fumer ?» Parce que je le réprouve, voilà tout. Il avait aussi réprouvé les enfants et par conséquent, il n'en avait jamais eu. Où était-il à présent, son William, le grand réprobateur ? Lundy attendait son coup de téléphone, devait-elle lui téléphoner ? À vrai dire, non.